de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer entre autres. Pompeo pense que le premier ministre japonais Suga renforcera les liens entre Washington et Tokyo. Le navire de croisière MV Costa Mediterranea a rapatrié 99 membres d'équipage. La Chine envoie des drones au poste de garde du front tibétain. Le secteur privé a un rôle de soutenir l'économie, a déclaré le vice-ministre de BUMN. SKIPM a noté que les exportations de produits de la pêche de l'ouest de Sumatra ont augmenté en septembre. Le gouvernement soutient la demande de naturalisation des 4 athlètes, a déclaré le ministre indonésien du droit et des droits de l'homme. Et Indopharma est prêt à soutenir l'achat de tests antigéniques pour remplacer les tests rapides. Mon cher Jolitar, voici les nouvelles en complet. Pompeo pense que le premier ministre japonais Suga renforcera les liens entre Washington et Tokyo. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a estimé mardi que Suga pourrait travailler au renforcement des liens entre Washington et Tokyo. Il a également salué le nouveau premier ministre japonais Yoshihide Suga en tant que figure qui lutte pour le bien. S'exprimant au début de sa rencontre avec le ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi à Tokyo, Pompeo a déclaré qu'il était d'accord avec Suga sur le fait qu'un Indo-Pacifique libre et ouvert est le fondement de la paix et de la stabilité régionale. La visite de Pompeo au Japon, sa première en Asie de l'Est depuis juillet 2019, intervient à un moment où les relations entre les États-Unis et la Chine rivales stratégiques sont à leur pire depuis des décennies et alors que Washington s'efforce à renforcer le soutien de ses alliés asiatiques contre Pékin. Le voyage de Pompeo a été écourté à une journée complète au Japon après que les visites en Corée du Sud et en Mongolie ont été annulées lorsque le président Donald Trump a été testé positif pour le coronavirus. Le navire de croisière MV Costa Mediterranea a rapatrié 99 membres d'équipage. Le navire de croisière MV Costa Mediterranea battant pavillon italien partant de Singapour a rapatrié mardi 99 membres d'équipage via International Jakarta Container Terminal SAGICT au port de Tanjung Priok, Jakarta du Nord, mardi. Le commandant de la base principale 3 de Jakarta, le général de brigade de l'armée nationale indonésienne Hermanto, en tant que commandant du groupe de travail pour le rapatriement des membres d'équipage indonésiens, a déclaré que les 99 membres d'équipage étaient composés de 17 Indonésiens et 82 ressortissants étrangers. Selon le projet, les 99 membres d'équipage soient mis en quarantaine et testés pour swab ou bien PCR à l'hôtel Mercure Batavia. Les 82 étrangers venaient de Colombie, du Honduras, des Philippines, d'Éthiopie, du Sri Lanka, du Pérou et d'Inde. Pour les citoyens indonésiens ou étrangers qui ont subi un test positif par swab, ils seront conduits à l'hôpital Wisma Atlet Kemayoran. Ceux qui sont négatifs seront renvoyés chez eux. La Chine envoie des drones au poste de garde du front tibétain. L'Armée populaire de libération de Chine, PLA, envoie des drones à l'avant-garde qui sont en attente dans les régions éloignées. Les troupes montent la garde sur les montagnes enneigées de la région autonome du Tibet. Le soutien logistique fourni par au moins 10 drones est la première fois que la PL fournit des troupes en attente dans le district de Motuo, une zone située au plus de 1200 mètres d'altitude dans le sud-est du Tibet, à la frontière de l'Inde. Les 10 drones ont été vus volant vers 4 avant-postes de la garde avant du commandement militaire tibétain sur la PL. Le drone est capable de décoller et d'atterrir à l'aide d'outils de communication basés sur l'intelligence artificielle. Selon la surveillance CCTV, les médias officiels de diffusion de la Chine mardi, l'emplacement, comme rapporté par la station de télévision, est au-dessus du sommet des montagnes qui sont souvent frappées par des glissements de terrain et des tempêtes de neige. Le personnel de l'APL qui est affecté ne peut atteindre ses postes qu'à pied pour transporter des vivres et d'autres produits de première nécessité. Le secrétaire privé a un rôle de soutenir l'économie, a déclaré le vice-ministre de BUMN. Le vice-ministre des entreprises d'État BUMN, Ibudi Gunadi Sadikin, a affirmé que le secteur privé avait joué un rôle important à soutenir l'économie nationale. C'est ce qu'a déclaré Ibudi Gunadi Sadikin lors d'une discussion virtuelle de l'Agence de défense nationale à Jakarta mardi. Actuellement, selon lui, la contribution du secteur privé à l'économie nationale est d'environ 60 à 70% et le reste par BUMN et le gouvernement. Il a déclaré que les efforts visant à impliquer le secteur privé pourraient être menés par le gouvernement à travers des réglementations attractives. Boudi a déclaré que si l'administration précédente, comme à l'époque du président Sukarno et du président Suharto, le budget de l'État à PBN avait un rôle suffisamment important dans la conduite de l'économie nationale. Actuellement, le secteur privé joue le plus grand rôle. SKIPM a noté que les exportations des produits de la pêche de l'ouest de Sumatra ont augmenté en septembre. station de quarantaine du poisson et des contrôles de la qualité et de la sécurité des produits de la pêche SKIPM à Padang, dans l'ouest de Sumatra, a noté que l'exportation des produits de la pêche de l'ouest de Sumatra avait augmenté en septembre 2020 à 3 fois par rapport à août, qui n'a expédié qu'une seule fois. Le chef de SKIPM Padang, Rudy Barmara, à Padang, a déclaré mardi que les produits de la pêche exportés de l'ouest de Sumatra en septembre 2020 étaient du thon congelé, pesant 21 372,4 kg, qui avait été envoyé aux États-Unis dans un envoi d'une valeur de 1,8 milliard de roupies. Ensuite, 4000 alevins ont été envoyés en Malaisie. Cette exportation est effectuée en un seul envoi d'une valeur de 12 millions de roupies. Après cela, jusqu'à 580 poissons d'ornement marin d'une valeur de 2,9 millions de roupies ont été envoyés à Osaka, Japon. Le gouvernement soutient la demande de naturalisation des 4 athlètes, a déclaré le ministre indonésien du droit et des droits de l'homme. Le ministre indonésien du droit et des droits de l'homme, Yasona Lauli, soutient la demande du ministère indonésien de la jeunesse et des sports, Kemenpora, d'accorder la citoyenneté à 4 athlètes. Il s'agit du footballeur du club Persija Jakarta, des Pays-Bas, Marc-Anthony Klok, et de 3 athlètes de la branche basketball, Brandon Van Dorn Chewato, des États-Unis, Kimberly Pierre-Louis, du Canada, et Lester Prosper d'Angleterre. Yasona a fait part de cela lors d'une réunion de travail virtuelle avec la commission 3 du Parlement indonésien des PRRI. Kemenpora, président général de l'Association de football indonésienne, ainsi que le président général du conseil d'administration de l'Association indonésienne de basketball lundi 5 octobre. Lors de la réunion, la commission 3 du DPRRI a également approuvé la demande de naturalisation des 4 athlètes professionnels. Indopharma est prêt à soutenir l'achat de tests antigéniques pour remplacer les tests rapides. La société pharmaceutique publique Indopharma SA est prête à soutenir l'achat d'un test d'antigène pour remplacer le test rapide d'anticorps pour le test COVID-19, comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. C'est ce qu'a déclaré le président directeur de l'Indopharma SA, Arif Framuhanto, lors d'une audition avec la commission 6 du Parlement indonésien à Jakarta lundi. Arif espère que les réglementations concernant l'utilisation des tests rapides d'antigènes sortiront prochainement pour remplacer l'utilisation des tests rapides d'anticorps. L'OMS prévoit de fournir des tests antigéniques aux pays à revenus faibles ou intermédiaires avec un faible nombre de tests sur écouvillons. Le gouvernement indonésien a également demandé à l'OMS de considérer l'Indonésie comme l'un des pays à bénéficier d'une assistance pour un test rapide d'antigène à un prix abordable. Bon cherche de l'État, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u. Uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'ingérence d'autres pays dans le conflit d'Azerbaïdjan et d'Arménie ». La guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ne montre aucun signe de fin depuis que la guerre dans la région du Haut-Karabakh a éclaté à nouveau il y a 2 semaines, au moins plus de 200 personnes sont mortes. Le conflit entre les deux pays depuis la Première Guerre mondiale a fait des victimes et menace des dommages environnementaux plus larges et peut avoir un impact sur les sources de gaz naturel dans la région du Caucase. La Turquie, qui est le principal allié de l'Azerbaïdjan, a montré une influence dans le conflit dans la région du Caucase. L'influence significative de la Turquie se manifeste par les discussions entre le pacte militaire de l'Atlantique Nord, ou l'OTAN, et le gouvernement turc. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est notamment rendu à Ankara pour rencontrer de hauts responsables turcs et lui dit de ses espoirs. L'OTAN espère que la Turquie utilisera son influence pour désamorcer le conflit armé au Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est un territoire à la frontière de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie contrôlé par les séparatistes arméniens. Avant la dissolution de l'Union soviétique dans les années 90, le Haut-Karabakh faisait partie du territoire de l'Azerbaïdjan. La rébellion séparatiste arménienne soutenue par le gouvernement arménien a séparé la région de l'Azerbaïdjan qui jusqu'à présent n'a pas reçu de reconnaissance officielle des Nations Unies. Le conflit qui a provoqué l'afflux de milliers de réfugiés du Haut-Karabakh et tué des milliers de personnes depuis le début de la guerre est encore compliqué par l'ingérence de pays étrangers qui ont des intérêts et luttent pour l'influence dans la région du Caucase étant riche en ressources minérales. La région du Caucase, située non loin du Haut-Karabakh, est traversée par des tuyaux de carburant et de gaz qui sont la source d'approvisionnement mondial en pétrole. Compte tenu de la grande influence de la Turquie sous la forme de soutien au gouvernement azerbaïdjanais, l'OTAN a demandé à la Turquie d'encourager la fin des combats et de mettre fin aux tensions. Auparavant, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les Azerbaïdjanais à s'emparer du Haut-Karabakh pour faire un nouveau parti de l'Azerbaïdjan. Répondant à l'appel de l'OTAN, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a exhorté l'OTAN à demander à l'Arménie de se retirer du Haut-Karabakh. Selon le gouvernement d'Ankara, la résolution du conflit qui a tué au moins 30 000 personnes depuis son déclenchement dans les années 90 doit être résolue de manière équilibrée. Le gouvernement azerbaïdjanais, au milieu d'une guerre qui a repris en juin dernier, demande à l'Arménie de se retirer du Haut-Karabakh. La fin de la guerre dans la région du Haut-Karabakh dépendra des engagements de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. L'intervention de parties étrangères n'est pas un facteur déterminant pour attendre à la paix. Jusqu'à présent, rien n'indique que les deux pays en guerre passeront à la table de négociation. On dirait que la tragédie des habitants du Haut-Karabakh et toujours encore. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « La Mère Teresa a créé le droit de missionnaire de la charité » le 7 octobre 1950. La charité missionnaire est un ordre de religion catholique créé le 7 octobre 1950. En 2012, cet ordre comptait environ 4500 nonnes. Les membres nonnes de cet ordre obéissent à la promesse de pureté, de pauvreté, d'obéissance et fournir des services gratuits de tout cœur aux plus pauvres parmi les pauvres. Cet ordre a été fondé par Mère Teresa de Calcutta. Elle est une nonne catholique romaine d'origine albanaise et de nationalité indienne. Pendant plus de 47 ans, elle a servi les pauvres, les malades et les orphelins. Elle a guidé l'expansion des missionnaires de la charité d'abord dans toute l'Inde et ensuite dans d'autres pays. Notre information est sur la naissance de Vladimir Poutine, 7 octobre 1952. Vladimirovich Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, République socialiste fédérative soviétique de Russie, URSS, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie. Vladimir Poutine est un homme politique russe et a été réélu président de la Russie depuis le 7 mai 2012 jusqu'à aujourd'hui. Auparavant, il a été premier ministre de 1999 à 2000, président de 2000 à 2008 et il est redevenu premier ministre de 2008 à 2012. Au cours de son second mandat de premier ministre, il est devenu président du Parti Russie Unie, un parti gouvernemental. Pendant la première présidence de Poutine, l'économie de la Russie a augmenté pendant 8 ans et le produit intérieur brut ou PIB mesuré par le pouvoir d'achat a augmenté de 72%. En 2007, il a été désigné comme le personnage de cette année par le magazine Time. En 2015, il a été classé numéro 1 sur la liste des personnalités les plus influentes selon le magazine Time. En 2013, 2014 et 2015, il a été classé numéro 1 sur la liste des personnalités les plus influentes au monde selon le magazine Forbes. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 7 octobre 2001, la guerre en Afghanistan a commencé. La guerre en Afghanistan a débuté le 7 octobre 2001 après les attaques du World Trade Center du 11 septembre. Les États-Unis ont lancé leur campagne de lutte contre le terrorisme en Afghanistan, dont le but est de renverser les talibans accusés de protéger Al-Qaïda. C'est aussi pour arrêter Osama bin Laden. L'Alliance du Nord de l'Afghanistan fournit une majorité de troupes avec le soutien des États-Unis et des pays de l'OTAN, entre autres la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et l'Australie. Le nom de code donné par les États-Unis pour ce conflit est l'opération de liberté éternelle. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Sempat percaya pikir semua yang kita punya nyata kamu dan semua kata-katamu semua palsu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sejuritok bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement accélère l'infrastructure des véhicules électriques. Le gouvernement indonésien, à travers une synergie entre les ministères ou les agences et les gouvernements locaux, s'emploie à accélérer l'infrastructure de véhicules à moteur électrique. Cet effort vise à garantir la disponibilité de l'énergie à la communauté des utilisateurs. Citant le rapport de l'agence de presse Antara dimanche, le directeur de l'ingénierie et de l'environnement électrique du ministère de l'énergie et des ressources minérales, ONH, dans des informations écrites, a déclaré que le ministère de l'énergie et des ressources minérales avait formulé des politiques, en particulier en ce qui concerne l'infrastructure de réseau de véhicules à moteur électrique. Il espère que les acteurs commerciaux pourront participer grâce aux incitations fournies. En outre, Wanhar a déclaré que le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales avait publié le règlement du ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales numéro 13 de 2020 concernant la fourniture d'une infrastructure de réseau électrique pour les véhicules à moteur électrique à base de batterie. Le règlement traite de la station de réseau public pour des véhicules électriques et également de la station d'essence de batterie des véhicules électriques publics pour les véhicules électriques à moteur couvrant les bornes de recharge ou les chargeurs privés comme dans les salles d'exposition, les entreprises privées et aussi dans les ménages. Il a déclaré que dans le plan général de l'énergie nationale, le gouvernement vise la production de 2 200 voitures électriques et 2,13 millions de motos électriques en 2025. Ce nombre augmente à 4,2 millions d'unités de voitures électriques et 13,3 millions d'unités de motos électriques en 2050. Dans ce plan général de l'énergie nationale, les bornes de recharge pour les véhicules électriques publics devraient également atteindre 1000 unités en 2025 et 10 000 unités en 2050. Selon Wanhar, le gouvernement a innové des routes avec la compagnie d'électricité de PT PLN Presero, à savoir atteindre l'objectif de 180 bornes de recharge en 2020 réparties dans toute l'Indonésie, à la fois sous la forme de bornes de recharge électrique et de stations d'essence de batterie. Le gouvernement prévoit qu'en 2025, il y aura déjà 2465 bornes de recharge publiques. À ce jour, 62 unités de bornes de recharge électrique sont détenues par PLN, l'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie, Pertamina et le secteur privé. Wanhar a rappelé que les véhicules à moteur électrique sont des véhicules respectueux de l'environnement. Il a invité tous à passer aux véhicules à moteur électrique afin que la qualité de l'air puisse être plus propre et à bas coût. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Kamu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepas. Dan tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Jalanan ini tak usah kita pikirkan ujung perjalanan.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue au magazine culturel. Aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter le parc national de Laiwangi, Wanggameti. Le parc national de Laiwangi Wanggameti est une région de protection de la flore et de la faune sur l'île de Sumba, Nusa Tenggara Est. Il est situé au sud de l'île de Sumba et à une distance d'environ 100 km de Waingapu. Administrativement, le parc est situé dans les trois districts à savoir Tabundung, Paberiwai et Pinupahar. Le parc est la représentation de divers types de forêts sur l'île de Sumba, y compris la forêt des elfangs, qui est rarement et a une diversité de types de grande valeur, en particulier à une altitude de 800 mètres au-dessous du niveau de la mer. Le parc national de Laiwangi Wanggameti est également une zone forestière de Wanggameti qui est dominée par un arbre omang ou angpang forestier. La combinaison de certains types d'écosystèmes avec un paysage des collines escarpées et la vallée profonde est un panorama naturel exotique typique du parc national de Laiwangi Wanggameti. Le panorama exotique peut être apprécié via un forfait d'aventure de forêt et d'escalade. Certaines des portes d'entrée ou des points de vue les plus idéaux pour profiter de la beauté du parc sont entre autres le village de Nangga, le village de Wanggameti, les hauts plateaux de Katikuwai et le pic de Wanggameti. Il existe également des objets touristiques spéciaux tels que le lac La Putih, la cascade La Putih, la cascade Waikanabu et la cascade Wanggameti. Le lac La Putih et la cascade La Putih se trouvent dans le village de Prayingkareha, le district de Tabudung. Cette destination touristique est également bien connue et visitée par de nombreux touristes. La cascade de Waikanabu est située dans le village de Waikanabu, le district Tabundung. Pour vous rendre au parc national de Laiwangi Wanggameti, vous pouvez prendre l'avion qui prend environ une heure de Kupang à Waingapu. En arrivant à Waingapu, Awa, Tumbaka, Maujawa, Melolo, Kanagar, vous utilisez le transport terrestre pendant 2 heures qui se poursuit jusqu'à l'emplacement du parc. Ce voyage est plutôt fatigant, mais vous vous sentez une aventure incroyable tout en profitant de la beauté du parc national de Laiwangi Wanggameti. Alors, réglez votre temps pour une aventure incroyable à l'est de Nusa Tenggara. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour ce soir avec comme titre Le Parc National de Laiwangi Wanggameti. Merci de votre attention. À demain. Thank you.
tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu.
Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah. Jalanku,
ku pun kan terus melaju.
Ku lepaskan, tak bertahan, walau lupa tetap nyata.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Le sujet d'aujourd'hui est Isi Ulang Kartu Uang Elektronik. Ici Ulang Kartu Uang Elektronik, ou en français, recharger la carte de monnaie électronique. Vous êtes avec moi, Audrey. Bonne écoute. Serge Littard, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Ici Ulang Kartu Uang Elektronik. Ici Ulang Kartu Uang Elektronik, ou en français, recharger la carte de monnaie électronique. La situation est, au dépanneur, Kevin veut recharger une carte de monnaie électronique.
Ada yang bisa dibantu?
Saya mau mengisi ulang kartu uang elektronik.
Mau mengisi berapa?
Tolong isikan 200 ribu rupiah.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Ici Oulang, carte Ouang électronique. Ici Oulang, carte Ouang électronique, ou en français, recharger la carte de monnaie électronique. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et puis, vous pouvez me répéter. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Qu'est-ce que je peux vous aider? Saya mau mengisi ulang kartu uang elektronik. Saya mau mengisi ulang kartu uang elektronik. Je voudrais recharger une carte de monnaie électronique. Mau mengisi berapa? Mau mengisi berapa? Vous voulez recharger combien? Saya mau mengisi 200.000. Saya mau mengisi 200.000. Je voudrais recharger 200.000. Chers auditeurs, si vous souhaitez recharger votre carte de monnaie électronique, vous pouvez utiliser le mot ICICAN. ICICAN, en français, recharger. Ce qui signifie demander quelque chose à recharger. Dans le dialogue, Kevin a demandé de recharger la carte de monnaie électronique avec la phrase Tolong ICICAN 200.000 rupiah. Tolong ICICAN 200.000 rupiah. Ou en français, veuillez recharger 200 000 roupies. Le mot de demande de recharge peut utiliser le mot tamba. Tamba. En français, ajouter. Par exemple, tolong tambah 200.000 rupiah di kartu uang elektronik ini. Tolong tambah 200.000 rupiah di kartu uang elektronik ini. En français, veuillez ajouter 200 000 roupies sur cette carte de monnaie électronique. Et la suite, si vous voulez demander quelque chose, vous pouvez utiliser l'expression tolong. Tolong. En français, veuillez. L'utilisation de cette expression est plus subtile et plus polie lorsque vous demandez quelque chose. Par exemple, la phrase Tolong ambilkan buah itu. Tolong ambilkan buah itu. Veuillez prendre le fruit. À un sens un peu différent de la phrase ambilkan buah itu. Ambilkan buah itu. En français, apportez le fruit. La phrase ambilkan buah itu. Ambilkan buah itu. Ou en français, apportez les fruits. Semble peu impoli pour demander quelque chose. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Ada yang bisa dibantu?
Saya mau mengisi ulang kartu uang elektronik.
Mau mengisi berapa?
Tolong isikan 200.000 rupiah.
Bon, chers auditeurs, voilà l'émission Apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengaruh. Bersandar
menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Yang aku lihat terang.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33.5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie. Vous êtes avec moi, Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Et cette fois, vous allez écouter une chanson pop traditionnelle de Kalimantan occidental, intitulée Ae Kapuas, chantée par Rino Prasetya et Hendry Lamiri. Chers auditeurs, la chanson Ae Kapuas a été créée par Paul Putra Frédéric et raconte l'histoire de la rivière Kapuas et de la ville de Pontianak. La rivière Kapuas est la plus longue rivière du Kalimantan occidental et aussi la plus longue d'Indonésie. En outre, la chanson Ae Kapuas raconte également l'histoire de la ville de Pontianak qui est diffusée par la rivière Kapuas. On dit que Pontianak était autrefois une forêt, mais maintenant c'est devenu une ville. À la fin des paroles, il est dit que quiconque a déjà bu l'eau de la rivière Kapuas ne peut jamais l'oublier. Bonjour Jolitar, voici Rino Prasetya et Hendry Lamiri vont chanter une chanson pop traditionnelle de Kalimantan occidental intitulée Ae Kapuas. Bonne écoute.
Ramai penduduknya, Pontianak. susah nak ngelupakannya.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.